Voilà, bonjour à tous. Vous allez bien?
Oui.
Ça y est, on en a fini avec cette année.
Oui.
Eh bien, nous voulons prier. Seigneur, notre Dieu, nous te remercions pour cette journée, ces dernières journées de cette année. Nous te prions surtout pour notre frère Philippe, afin que tu aies ta main sur lui et qu'il puisse retrouver une bonne santé et que son cesse et tout cesse. Merci Seigneur Jésus de le renouveler corps, âme et esprit, ainsi que chacun d'entre nous, que nous puissions être bien dans tous les domaines, et aussi pour nos frères et sœurs qui nous écoutent sur Internet. Au nom de Jésus, amen.
Amen.
Amen. Alors hier soir, j'étais dans mon bureau, enfin pas hier soir, hier après-midi, j'étais dans mon bureau. Et puis, je cherchais la pensée du Seigneur, qu'est-ce que je vais bien pouvoir prêcher demain, dernier jour de l'année, c'est quand même spécial, donc il faudrait que j'apporte quelque chose de spécial, qu'est-ce que je pourrais dire. Et il y a une pensée qui s'est imposée à moi, 2023. Et puis j'ai pensé à l'apôtre de l'amour, Jean. Et puis j'ai dit, tiens, qu'est-ce qui est écrit dans Jean 2023. Et j'ai lu. Et voilà ce qui est dit. C'est Jésus qui parle à ses disciples. Ils sont dans la chambre haute, ils ont la trouille des religieux. Ils se sont enfermés. Et Jésus passe à travers le mur, parce qu'il n'y a plus rien qui le retient maintenant, il est encore glorieux. Et il leur dit, shalom, deux fois shalom. Et puis, il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez leurs péchés en seront effectivement tenus quittes, et ceux à qui vous refuserez ce pardon resteront chargés de leurs péchés. Amen. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Voilà ce que je dois vous dire. C'est pas une parole que Jésus dit et donne à tout le monde. Tous les petits chrétiens dans leur coin n'ont pas ce pouvoir. Ce sont les disciples qui peuvent faire ça. Retenir ou pardonner les péchés. Jésus s'adressait à ses disciples. Vous imaginez un petit peu si les chrétiens commençaient à... D'ailleurs, Dieu n'en tiendrait pas compte, mais... Quand quelqu'un est disciple de Jésus, c'est tout à fait autre chose. Nous ne pouvons pas prétendre être un disciple si nous ne sommes pas disciplinés. Et nous pouvons être un gentil chrétien, sans être un disciple. On va voir les critères de Jésus, car c'est son avis qui compte, c'est son avis qui est important, pas ce que nous imaginons. Donc on va regarder les critères de Jésus, ils sont dans Luc 14, 25. Je vous lis dans la parole vivante. Si quelqu'un vient après moi et n'est pas prêt à renoncer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, jusqu'à lui-même, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui refuse de porter sa croix pour marcher sur mes traces ne peut pas être mon disciple. En effet, si l'un de vous veut bâtir une tour, est-ce qu'il ne se met pas d'abord à réfléchir en toute tranquillité? Il calcule à combien elle lui reviendra et s'il a les moyens de mener son entreprise à bonne fin. Sans quoi, s'il n'arrive pas à terminer sa construction après avoir posé les fondations, tous les passants se moqueront de lui. Regardez, dirait-il, c'est celui qui a commencé à construire et qui n'a pas pu terminer. Celui qui s'engage avec Jésus puis qui s'arrête, les gens rigolent doucement. Ils disent, ah oui, bon. Ou bien, supposez qu'un roi soit sur le point de déclarer la guerre à un autre, ne commencera-t-il pas à tenir conseil afin d'examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter celui qui est sur le point de marcher contre lui avec 20 000? Que c'était? S'il se rend compte qu'il est incapable, il lui envoie à temps une délégation, pendant que l'ennemi est encore loin, pour l'informer sur ses conditions de paix et engager des négociations avec lui. Il en est de même pour vous. Quiconque ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. Et il continue disant, le sel est certainement une bonne chose, mais s'il devient insipide, comment lui rendra-t-on sa saveur? On ne peut plus l'utiliser, ni pour le sol, ni même pour le fumier. Il n'y a plus qu'à le jeter. Que celui qui est capable d'écouter s'efforce de bien comprendre ce que je viens de dire. Parce que c'est important. Ça, c'est les critères de Jésus. Quiconque ne fait pas ce que Jésus dit là, perd sa saveur. Vous savez comment le sel peut perdre sa saveur quand il est mélangé dans beaucoup d'eau. Ou alors quand il est brûlé. Le jour du sermon sur la montagne, Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. Tiens, on va lire dans Matthieu 5. Matthieu 5, verset 11. Voilà ce que Jésus dit. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront. Ah, je suis content, j'ai été vraiment insulté cette année 2023. Je suis content, je suis heureux. Non, ça veut dire, vous êtes en marche si on vous insulte. C'est-à-dire, vous êtes en progrès. Ça veut dire que si on vous insulte à cause de Jésus, c'est formidable, c'est très bien. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte parce que vous êtes mes disciples. Oui, réjouissez-vous alors et soyez heureux parce qu'une récompense magnifique vous attend dans les cieux. Vous êtes dans la ligne de vos devanciers, les prophètes d'autrefois, eux aussi ont été persécutés de la même manière. Ce que le sel est pour les aliments, vous l'êtes, vous, pour la terre. Si le sel devient insipide, avec quoi lui rendra-t-on son pouvoir salant? Il ne sert plus à rien, il n'y a qu'à le jeter dehors où il sera piétiné par les passants. Et puis après il dit, vous êtes la lumière du monde, quand une ville est construite au sommet d'une colline, elle ne saurait échapper au regard des gens. Donc ça veut dire que si on parle de Jésus, si on montre ce que Jésus dit, si on explique ce que Jésus dit, c'est sûr qu'on va être jugé, critiqué, accusé, calomnié. On va vous dire que... Alors, Jésus, on lui a dit qu'il avait des démons. Voilà. Moi aussi, on m'a dit que j'avais des démons, hein. Ou que j'en avais chez moi, bon. Heureux, je suis heureux, comme disait Fernand Reynaud. Je suis content parce que voilà, ils ont dit ça des autres, ben, c'est normal qu'ils le disent de nous. Et j'ai le pouvoir de pardonner ou pas. Je n'ai pas encore décidé. Je vais voir, je réfléchis. Nous ne pouvons pas prétendre être un disciple si nous ne sommes pas disciplinés. Il dit ça à ses disciples. Un disciple est ce que le sel est pour la nourriture. Mais s'il perd sa saveur, il ne sert à plus rien, il n'y a plus qu'à le jeter dehors ou il sera piétiné par les passants. Un autre jour, il a dit à ses disciples, le sel est une bonne chose, mais s'il devient insipide, comment lui rendra-t-on sa saveur? On ne peut l'utiliser ni pour le sol, ni pour le fumier, il n'y a plus qu'à le jeter. Waouh! Il dit ça à ses disciples, il dit, vous êtes le sel de la terre, mais c'est possible qu'on vous jette si vous perdez votre saveur. Ça me fait inévitablement penser aux vierges folles. Je vais vous lire l'histoire. C'est Jésus qui parle, Matthieu 25, verset 1. « Ce jour-là, le règne des cieux ressemblera à 10 jeunes filles et vierges qui s'en allèrent, leur lampe à la main, pour accueillir le marié. » Pourquoi ? Parce que c'est écrit au milieu de la nuit, une voix a crié « L'époux vient ». Alors, comme quelqu'un a dit « L'époux vient », ça réveille, parce qu'elles dorment tous, les vierges folles, les vierges sages, elles dorment à point fermé, mais voilà, elles s'en vont. Leur lampe à la main pour accueillir le marié. Cinq d'entre elles étaient étourdies, les cinq autres étaient prévoyantes. Or, les étourdies, dans d'autres versions c'est marqué les folles, hein, avaient bien pris leur lampe, mais elles n'avaient pas pensé emporter une réserve d'huile. Alors, c'est ballot, hein. T'as une lampe à huile, mais t'as oublié de mettre de l'huile, t'as pas de réserve, t'as rien, t'as... Celles qui étaient prévoyantes avaient pris, en même temps que leur lampe, des flacons contenant des provisions d'huile. Comme le marié se faisait attendre, elles assoupirent toutes et finirent par céder au sommeil. Mais en pleine nuit, un grand cri retentit. « Voici, voilà l'époux, il arrive, venez, allez l'accueillir !» Alors toutes ces jeunes filles, donc ces vierges, ces personnes s'étaient gardées pures pour leur époux, se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Alors les étourdies, il est gentil là, hein, notre frère Alfred Kuhn dit les étourdies, mais les vieilles versions disent les folles. Et les étourdies s'adressèrent aux prévoyantes. « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes sont en train de s'éteindre. » Mais celles-ci répondirent, donc les prévoyantes, les sages répondirent, « Impossible, il n'y aura jamais assez pour nous et pour vous. » « Oh, comme elles sont méchantes, les prévoyantes. Oh, Michel, comme tu es dur, tu vois. Hein ? Non, je vous en donne pas, vous avez qu'à en prendre avant. Maintenant, c'est trop tard. » C'est terrible, hein, comme parole. Impossible, il n'y aura jamais assez pour nous et pour vous. Courez plutôt en acheter chez le marchand d'huile. Ah, c'est qui le marchand d'huile? C'est tous ces faux prophètes qui vous disent, cette année, vous serez l'occasion de la plus grande bénédiction financière de toute votre famille. Vous recevrez une maison. Puis alors, ils mettent des maisons hollywoodiennes en photo sur Facebook. Vous recevrez cette voiture. Ils mettent des bagnoles que même, les gens riches, j'en connais quelques-uns, ne peuvent pas se payer. Ils disent ça à des pauvres broussards, c'est infernal. Ou ça y est, vous allez avoir votre visa, et vous allez pouvoir voyager en avion, c'est merveilleux, voilà, ça c'est extraordinaire, hein. Ben, qu'ils aillent où ils veulent, mais pas en France, voilà. Donc, pendant qu'elles sont parties, voyez, c'est terrible, allez en acheter chez les marchands, hein, chez ceux qui font de la bénédiction, qui font 5-6 collectes dans la réunion. Pendant qu'elles sont parties en chercher, le marié arrive. Celles qui sont prêtes entrent avec lui dans la salle de noces et on ferme la porte. Ça fait penser à la chose, vous savez, quand Noé a prêché, Noé était un prédicateur de justice, il a prêché pendant tout le temps qu'il construisait son arche, il a prêché que ça y est, Dieu allait détruire le monde, il invitait les gens à rentrer dans l'arche et tout le monde se moquait de lui, et un jour, il s'est mis à pleuvoir et puis Dieu ferma la porte, c'est Dieu qui ferme la porte. Et quand Dieu ferme une porte, tu peux pas l'ouvrir, c'est fini, c'est terminé. Alors on ferma la porte. À la fin, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour. Elles arrivent, elles ont beau crier, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Et il leur répond, « Vraiment, je vous l'assure, je ne sais pas qui vous êtes. Je ne sais pas qui vous êtes. Mais oui, Seigneur, on allait à l'église tous les dimanches, on écoutait les prédications sur Internet, on priait. Tu ne te rappelles pas de nous ?» C'est pourquoi, ajouta Jésus, tenez-vous en éveil, car vous ne pouvez jamais savoir ni quel jour, ni à quelle heure je reviendrai. Il y a Inierski qui sait, mais à part lui, personne ne sait. Excusez-moi, je ne peux pas m'empêcher de rire avec ça, c'est pas possible. Ça fait au moins 10 ou 12 fois qu'il se trompe de date, et il y a toujours des gens pour le suivre et le soutenir financièrement. C'est infernal. Il y a vraiment des vierges folles, hein. Bon. Donc, les vierges folles. Jésus dit que il y a des gens qui se gardent purs. Bon, ils ne regardent pas les bandes dessinées de Walt Disney, hein, par exemple. J'étais dans une église il n'y a pas longtemps, c'était marqué dans l'entrée, vos enfants peuvent lire des brochures, mais pas les brochures de Walt Disney. Voilà. Ah bon? C'est du diable, Walt Disney. Voilà, les rentemplants, pif paf, le chien, tout ça, ça va, mais Walt Disney, non. Il n'y avait plus ces pauvres vierges, elles n'avaient pas ce qu'il fallait, elles n'avaient pas été prévoyantes, elles n'avaient pas ce qu'il leur fallait pour être dans la lumière. Et Jésus les a jetées dehors. Il les a foutues à la porte. Oh, le doux Jésus, mais Michel, qu'est-ce que c'est que tu nous racontes là? Je vous raconte pas des bobards, c'est ce que Jésus lui-même dit. Et je suis un prédicateur, je dois vous dire ces choses. Si je vous dis pas ça, si je vous dis mais Jésus est tellement gentil, il va sauver le diable à la fin. Non, attendez, il faut pas rigoler. Non. Jésus a des exigences, c'est pourquoi Jésus compare ceux qui lui obéissent, ceux qui sont ses disciples, à du sel. Eh bien, parce que le sel a un pouvoir. Jésus commande à ses disciples d'être et d'agir comme le sel qui a le pouvoir de rendre inaltérable. Moi, je me rappelle quand j'allais chez la grand-mère de Michou, il n'y avait pas de frigidaire, mais il y avait ce qu'on appelle une mets. D'ailleurs, on en a hérité, on l'a toujours. Et une mets, c'est un grand meuble en bois. Ils mettaient du sel là-dedans et puis ils mettaient à conserver le jambon, le saucisson. C'était pour conserver. Le sel a un pouvoir de conserver les choses, à les empêcher de pourrir. Et donc, c'est intéressant de savoir ça. Les anciens, donc, avant l'invention du frigo, ils utilisaient le sel pour ça. Un disciple donne de la saveur aussi à la parole de Dieu, qui est une véritable nourriture. Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc la parole de Dieu est une nourriture, et quand on donne la nourriture de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu, si nous ne sommes pas salés, si on parle, voilà, le Seigneur est grand, je suis dans la joie parfaite, ça fait pas envie, hein. Un disciple est un exhausteur de goût. Un disciple est appelé à donner du goût à la parole donnée en nourriture aux gens. Et dans l'évangile de Marc, Jésus dit que chacun doit être purifié par le feu et salé comme un sacrifice. On va lire Marc, chapitre 9, 43. Si ta main te fait tomber dans le péché, coupe-la. Oula, c'est Jésus qui dit ça? Oui. Mieux vaut entrer dans la vie avec une seule main que d'aller avec les deux en enfer. Si ton pied te fait tomber dans le péché, coupe-le. Mieux vaut entrer dans la vie avec un membre de moins que d'être jeté avec tes deux pieds en enfer. Si ton œil qui te pousse au mal et qui risque de causer ta chute, alors arrache-le et jette-le au loin. Mieux vaut entrer borgne dans le royaume de Dieu que d'être jeté avec les deux yeux dans l'enfer, où le ver rongeur ne meurt point et où le feu ne s'éteint jamais. En effet, chacun doit être purifié par le feu et préparé pour Dieu comme on prépare l'offrande du sacrifice avec du sel. C'est une chose précieuse que le sel, mais s'il devient fade, avec quoi lui rendrez-vous son goût? Ayez du sel en vous-même d'abord, soyez salé, soyez le sel de la terre, mais ensuite ayez du sel en vous et vivez en paix entre vous. Ah là là. Cette parole semble un peu énigmatique. Mais si vous sacrifiez votre vie et que vous êtes des gens qui cherchez à comprendre ce que la parole de Dieu dit, eh bien, vous saurez pourquoi il dit qu'il faut avoir du sel en soi et qu'il faut sacrifier votre petite vie pour la consacrer à Dieu, selon Luc 13, 33, acte 2, acte 4. C'est une souffrance que de tout laisser pour suivre Jésus, c'est le feu de l'épreuve. Alors, comme celui dont Jésus parle, qui veut construire une tour, qui doit réfléchir avant, faut réfléchir. Si vous voulez pas être jeté dehors dans le feu de la géhenne, l'enfer, il vous faut accepter le feu de l'épreuve qui purifie et le sel qui préserve de la corruption. Je dis ces choses au dernier jour de 2023 parce que ces choses ne sont jamais enseignées. Les pasteurs ne veulent pas faire fuir leurs fidèles en leur disant des choses comme ça. Alors il ne leur dit pas. On laisse le peuple dans l'ignorance des exigences de Jésus. Dieu est amour, oh Jésus, je m'éclate dans le Seigneur, alléluia, c'est merveilleux, les bras en l'air, avec la larme à l'œil. Oh, doux Jésus, merci Seigneur, parce que tu me bénis. Ouais. Dans Nombre 18-19, dans les versions anciennes, et en particulier dans la version Chouraki, qui est une version qui a été traduite par des juifs, eh bien il est dit, tous les prélèvements que les Israélites font pour Yahvé sur les choses saintes, je te le donne à toi et à tes fils et à tes filles avec toi par une loi perpétuelle. C'est une alliance de sel perpétuel devant Yahvé pour toi et ta postérité. Une alliance de sel. Vous aviez déjà entendu parler de ça ? Dans 2 Chroniques 13, 5, n'est-ce pas à vous de savoir qu'Élohim a donné le royaume à David sur Israël en pérennité à lui et à ses fils en pacte de sel. En pacte de sel. Alors, vous ne trouverez pas ça dans les versions modernes, hein, ils ont enlevé le sel. Vous ne comprenez pas ce que ça voulait dire, alors ils l'ont carrément enlevé. Voilà, c'est plus simple. Hein. C'est comme dans certaines versions, au sujet du baptême pour les morts, ils l'ont enlevé. Ben non, on ne comprend pas ce que ça veut dire, alors ils l'ont enlevé. Voilà. Il y a certaines versions où c'est écrit si Jésus-Christ, si la résurrection n'existe pas, à quoi ça sert-il de prêcher l'évangile au péril de notre vie? Alors que la Bible dit, à quoi ça sert-il de se faire baptiser pour les morts s'il n'y a pas de résurrection? Ça n'a rien à voir, mais ils se sont permis. Vous voyez, c'est l'apostasie. Nous vivons dans un temps d'apostasie. Tout à l'heure, je vous disais que j'ai vu un reportage. Ce sont des imams qui disent que 24% des jeunes à partir de 13 ans apostasie. Ils disent non, le Coran, on n'y croit pas, le prophète, on n'y croit pas, Allah, on n'y croit pas. 24%. Et les apostasies, bah, chez les chrétiens aussi, hein, il y a beaucoup d'apostasie. Voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils disent, mais ils ne le disent pas facilement parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de leurs parents, ils ont peur de l'imam, ils ont peur de leur copain, leur copine religieuse. Dans le christianisme, il n'y a pas cette crainte de Dieu, il n'y a pas cette... on s'en fiche, on fait des blagues sur Jésus et tout. C'est terrible. Pacte de sel. Colossiens 4, 6 nous dit que nos paroles doivent toujours être accompagnées de grâce et assaisonnées de sel afin que vous sachiez comment répondre à chacun. C'est-à-dire que, voilà, on doit doser, n'est-ce pas? À certaines, il faut mettre un peu plus de sel qu'à d'autres pour que ça les réveille un peu, que ça les secoue. Ils disent, oh là là, c'est salé ça. Ben oui, comme ça tu t'en souviendras. La question est donc, comment un disciple peut-il perdre sa saveur? La perte de la saveur, Pardon. La perte de votre saveur, en tant que sel, est associée à la perte des valeurs que Jésus donne, des enseignements que Jésus donne. Alors, déjà, beaucoup de chrétiens ne lisent plus la Bible, ou quand ils la lisent, ils prennent tout pour eux, sans discernement, sans voir que des fois Jésus parle à la foule, des fois Jésus parle à ses disciples, des fois Jésus parle à des démons, sans discernement, ils lisent, c'est la parole de Dieu, voilà. Vous ne perdez pas, vous perdez votre saveur quand vous perdez dans les charmes de cette terre temporaire, dans les charmes religieux, superstitieux. Hein, j'ai une très chère amie qui avait une association, elle s'est convertie, puis elle a oublié de changer le nom de son association. Je lui ai dit, elle avait appelé son association Sainte Rita. Voilà, Sainte Rita. C'est un truc catholique, c'est une dame qui est morte et puis qui pourrit pas, elle est dans un cercueil de verre, puis tout le monde va la vénérer. Alors maintenant elle s'est convertie, elle a enlevé Sainte Rita quand même, c'est bien. Voilà, il y a des charmes religieux, n'est-ce pas, des fables, des histoires qu'on raconte, et puis les gens croient à ça, mais la parole de Dieu, alors, Jésus avec son truc de se couper un œil, de renoncer à son père, sa mère, assez bien, tout pour mettre au pied des apôtres. Non, on n'en veut pas de ça. Préfère les fables. Si vous oubliez votre saveur originale, vous perdez tout. Quand vous avez reçu le Saint-Esprit, vous avez gagné tout. Mais si vous oubliez votre saveur originale, vous perdez tout. En fait, le sel perd de sa saveur quand il ne fait pas ce qu'il est appelé à faire. Et Jésus le dit dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, Luc 9, 26 à 33, il faut renoncer à son père, sa mère, ses frères, sa sœur, sa famille, hein, il faut donner tous nos biens, etc. Si vous ne faites pas ce pour quoi vous êtes fait, si vous voulez être un disciple, si vous êtes, Jésus dit à ses disciples, vous êtes le sel de la terre, mais si vous ne faites pas ça, vous n'êtes pas disciple, vous n'avez plus de saveur. Et au verset 34, il dit que Jésus parle du sel qui peut devenir insipide. Et voilà, c'est malheureux à dire, mais je vous disais tout à l'heure qu'autrefois, on mettait les choses à conserver dans le sel, maintenant on le met dans les frigos. Il y a beaucoup d'églises qui ressemblent à des frigos, hein. Nous allons commencer une nouvelle année et les gens de ce monde prennent des résolutions à cette période de l'année. Voilà, je vais manger moins, bon, je vais prendre un abonnement à la salle de gym pour perdre mon gros bide, je vais arrêter de fumer, je vais être gentil, je vais des résolutions. Et vous ? Eh bien, en pratiquant ce que Jésus ordonne, vous êtes dans l'alliance de sel. Le sel, nous l'avons lu, est utilisé sur l'offrande pour exprimer l'alliance perpétuelle. Vous vous offrez à Jésus en faisant ce qu'il dit et le sel est mis sur vous. Le sel, c'est vous et il est mis sur vous. Comme les vierges de la parabole qui s'étaient gardées pures pour Jésus, mais il y en avait qui étaient sages, il y en avait qui étaient folles. Il y en avait qui avaient perdu de leur saveur. C'est grave, hein? Dans Matthieu 5, 13, il est affirmé que vous êtes le sel de la terre et de même vous êtes la lumière du monde, au verset 15. Mais qu'est-ce que c'est? Qui est le sel? Qui est la lumière? Eh bien, c'est nous qui aimons le Seigneur Jésus. Jean 14, 15, je vous le lis. Jean 14, 15, de votre côté, si réellement vous m'aimez, vous vous appliquerez à faire ce que vous voudrez. Non. De votre côté, si réellement vous m'aimez, vous vous appliquerez à suivre mes instructions. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne peux pas vous prêcher un faux évangile. Si vous ne m'aimez plus après ça, ça m'est égal. Jésus n'est pas venu pour que les gens se pâment devant lui, non, il a dit la vérité que le Père lui disait de dire, c'est ce que je fais ce matin, le mieux que je peux, pour vous avertir, parce qu'on s'approche du jour où Jésus revient. Il y a une chose que vous devez entendre, le seul moyen pour que le sel perde sa saveur, ça c'est les scientifiques qui le disent, c'est d'en faire un usage non prévu par le mode d'emploi. Scientifiquement, le sel perd sa saveur si on change sa structure moléculaire. Alors vous allez regarder sur Google qu'est-ce que c'est que de changer la structure moléculaire de quelque chose. Et vous saurez comment. Voilà. Si vous avez reçu le Saint-Esprit, mais que vous l'avez attristé, eh bien, vous êtes en train de perdre votre saveur. Alors, souvenez-vous de cela, en entrant dans cette année 2024, vous ne pouvez pas perdre votre saveur tant que vous restez dans l'appel que Dieu vous a fait par la Bible. Vous ne pouvez pas perdre votre saveur tant que vous restez fidèle à l'appel que Dieu vous a fait dans la Bible. Alors, mon vœu pour vous, c'est que vous soyez en tout temps et en toutes circonstances le sel qui donne la saveur de Jésus au monde qui vous entoure. Amen. Seigneur Jésus, je prie que cette prédication un peu sévère en cette fin d'année puisse être prise par mes frères et sœurs, non comme une réprimande, mais comme un avertissement d'amour, une mise en garde au sujet du sérieux de ta parole, et que, comme des gens qui veulent construire une tour, ils se mettent à réfléchir, à se dire, est-ce que je vais pouvoir aller jusqu'au bout? Est-ce que j'ai fait tout ce qu'il faut pour que cette tour puisse être construite et que je ne sois pas ridiculisé et que le nom de Jésus ne soit pas sali? Réfléchissez. Seigneur, je te prie que mes frères et sœurs réfléchissent. Où ils en sont? Où ils en sont? Tu as dit que c'est toi qui es le fondement, mais que nous construisons dessus. Alors, il y en a qui construisent avec du chaume, de la paille. Tu as dit qu'il y en a qui construisent avec de l'argent ou avec de l'or, c'est-à-dire avec des matériaux nobles. Je te prie, Seigneur, que mes frères et sœurs construisent avec l'or de ta parole. Ta parole est de l'or éprouvé cette fois. Et je te prie, Seigneur Jésus, qu'ils prennent conscience de cela et qu'ils se mettent à vivre ce qui doit être vécu, ce que tu as dit qu'il fallait vivre. Je te le demande, Père, dans le nom de Jésus-Christ, mon Dieu. Amen.
Amen.
Au revoir et puis bonne année. Que le Seigneur soit avec vous. Au revoir.